Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quel est le point commun entre Kathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par des hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs, comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Merci à Adidas de soutenir ce podcast. Merci d'écouter ce 5e épisode de Conquérante dédié au judo. Océane est allée à la rencontre de Laure, 25 ans, qui pratique ce sport depuis ses 5 ans. Avec 2 entraînements par semaine, elle a besoin de sa dose hebdomadaire. Elle t'explique pourquoi le judo n'est pas du tout violent, contrairement à ce qu'on pourrait croire a priori. Tu entendras aussi Atina Marmora, fondatrice de l'association Revel, et meuf 100% inspirante qui va te faire comprendre l'importance du sport dans la construction de la confiance en soi. Autant te dire que tu vas écouter deux meufs chamées, j'espère que tu es prête. On commence cet épisode avec Laure qui t'explique comment le code moral du judo l'a inspirée jusque dans son quotidien et pourquoi elle n'est pas prête d'arrêter de monter sur un tatami.
Bonjour Laure.
Bonjour.
Je suis ravie de t'avoir avec moi.
Oui, moi aussi.
Tu viens nous parler de ton sport qui est le judo.
Oui.
Est-ce que tu peux me raconter ton souvenir de sport le plus marquant que tu as en tête?
Le plus marquant qui correspond donc du coup à mon sport, c'est le jour où mon professeur il m'a remis ma ceinture noire de judo. C'est pas le plus haut niveau, mais c'est pour moi le niveau le plus important et qui entraîne un tournant dans sa pratique. Et du coup, c'était vraiment spécial ce jour-là.
Ça se passe comment quand on te remet ta ceinture noire?
Passer sa ceinture noire, il y a plusieurs étapes. Il y a 3 étapes différentes. Il faut présenter d'abord un enchaînement de prises qui s'appelle, ça s'appelle un kata. Et ensuite, il faut marquer un nombre de points par compétition et faire une après-midi, donc sur le lieu de la compétition, à faire de l'arbitrage et aussi commissaire sportif, donc dans la partie d'arbitrage et de gérer les poules des compétitions. Donc il faut faire ces 3 étapes pour avoir sa ceinture noire. Et en fait, après, donc on envoie à valider au département. Et une fois qu'on a validé, mon professeur nous prend, rassemble tout le groupe. Et en fait, on vient auprès de lui. Et là, moi, j'ai eu un discours et d'encouragement et de félicitations pour ça. Le jour où il me l'a remise en main propre, voilà. Et quand on est enfant et qu'on commence assez tôt, ce qui a été mon cas, on a des demi-ceintures entre pour... Parce qu'il faut avoir 14 ou 16 ans pour avoir la noire, donc on ne peut pas la passer non plus très jeune, la noire.
C'était quand, du coup, la première fois que tu es montée sur un tatami?
J'avais 4 ou 5 ans, mais j'étais très déterminée à vouloir le faire, parce que ma mère m'avait inscrit à la danse classique.
Voilà, danse c'était moderne. Pas ta cam.
C'était pas ma cam du tout, et elle m'a dit « débrouille-toi, va voir le prof si tu veux absolument faire ce sport ». Et du coup, je suis allée m'inscrire, et voilà.
Laure, 5 ans, va s'inscrire toute seule au judo.
Ok. Voilà.
J'imagine que faire un sport de combat, ça entraîne quand même quelques craintes, quelques appréhensions. Est-ce que t'en as eu, toi?
Non, moi je voyais pas ça quand j'étais petite. C'était une manière d'aller se défouler.
Est-ce que t'as déjà eu peur de pas être à ta place, en fait, sur un tatami?
Non, jamais. C'est là même où je me sens le mieux. Il y a plus de barrière ou parce que on est tous en uniforme, en kimono, donc il y a plus de différence finalement. Il y a parfois certains garçons qui ont un ego un peu supérieur et qui aiment pas perdre face à une fille, mais bon, ils sont remis à la place par les autres derrière, donc...
Ça t'est déjà arrivé, ça, d'être face à un garçon et que tu sentes qu'il avait un peu mal à son égo parce que tu l'avais battu?
Ouais, Ouais, ça m'est arrivé où des fois il se laisse faire au début en se disant on va pas lui faire mal et tout, et finalement bah je le mets par terre et du coup il devient plus dur après.
Est-ce que quand tu parles de judo, t'as la sensation qu'il y a des idées reçues sur ta discipline ou des gens qui ont des a priori sur ta discipline?
Oui, un peu. Alors le fait qu'on soit pas féminine, qu'on soit très garçon manqué. Ce qui n'est pas forcément vrai. Il y en a, mais pas tout le temps, loin de là. Et sinon, c'est plutôt le côté qu'on peut être violente. Moi, j'ai eu des réactions de garçons qui, par exemple, lorsque je leur dis que je vais faire du judo, ils ont un mouvement de recul ou tout de suite, ça y est, je peux leur faire mal. Et voilà, c'est pas vrai non plus. Car genre, à chaque fois, je dis, mais je fais pas de mal à une mouche, donc faut pas s'inquiéter, quoi. C'est un sport de défense, par exemple, contrairement au karaté qui est un sport d'attaque, mais en fait, judo, c'est voie de la souplesse, en japonais, donc la traduction. Il y a du contact, mais oui, on se tape pas dessus non plus. C'est vraiment utiliser la force de l'autre, aller dans, faire un déséquilibre, déséquilibrer l'autre pour aller dans ce sens-là et gagner en subtilité et pas en force. Pas en rentrant dans le tas, en fonçant dans le tas.
C'est quoi la leçon la plus importante que t'as appris le judo? Ou bien ce que t'as appris sur toi-même?
Sur moi-même, c'est le fait d'être déterminée. Et après, le judo, il a un code moral qui est affiché sur le tatami, dans la salle où on pratique. Et je pense que moi, je m'en suis toujours un peu inspirée. Donc ça parle de respect, d'honneur, d'amitié et tout ça. Donc de politesse. Et finalement, j'ai appris tout ça finalement via mon sport aussi.
Tu disais aussi quand tu nous as écrit que tu pouvais pas vivre sans le sport aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement au quotidien?
C'est un défouloir, c'est vraiment une manière de se vider la tête pendant donc 1h30, 2h, voilà, de penser qu'à son corps finalement.
Est-ce que tu as une anecdote, un événement qui t'a fait te sentir vraiment puissante, conquérante, invincible sur le tatami?
Donc du coup j'ai eu ma ceinture noire et ça s'appelle aussi le premier dan, et là je suis en cours de passer le deuxième dan. Et le jury qui nous a reçus pour passer, pour présenter nos enchaînements, donc mon kata, c'était le jury qui m'avait refusé avant, lors du premier dan, et qui m'avait refusé pour des questions pas vraiment très agréables, où on nous a renvoyé en disant, de toute façon, vous êtes jeunes, vous êtes des filles, vous reviendrez. Très, très, très gentil. Et lorsque j'ai passé du coup pour le niveau au-dessus, donc le deuxième dan, je me suis rendu compte au dernier moment que je repassais devant ce jury-là. Et du coup, bah, j'ai donné vraiment le meilleur de moi-même avec ma partenaire. Et là, cette fois-ci, on a eu les félicitations et c'était très, très agréable de leur part.
C'était un peu une vengeance. Ouais.
Ils ont jamais su leur propos avant, mais dans ma tête à moi, c'était parfait, quoi.
Et du coup, quand ils t'avaient recalé la fois d'avant, ils vous avaient dit parce que vous êtes des filles et parce que vous êtes jeunes, c'est ça?
Ouais. En fait, ils ont pas voulu nous expliquer vraiment en détail ce qui manquait à notre présentation, à nos katas. Et en nous balançant un peu à la figure, voilà, en nous renvoyant un peu, vous êtes jeunes, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous avez le temps, vous êtes des filles. Et... Alors, je pense que c'était plutôt le jeune qui comptait et pas le fait qu'on soit des filles, mais bon. Le mot est parti avec et moi je l'ai retenu, quoi. Genre ça m'a fait très mal ce jour-là d'être abaissée un peu à ma condition féminine et pas à mon sport en général, quoi.
Et justement après cet événement-là, comment tu te sens? Tu te dis juste faut que je redouble d'efforts ou qu'est-ce que ça t'a...
Non, je me suis dit que c'était des vieux cons et que c'était juste ça. Ils étaient mal lunés ce jour-là.
Est-ce que c'est important au judo l'esprit de groupe? Même si t'es seule au final dans tes combats, est-ce que c'est important le groupe?
Ce qui est super important, c'est d'avoir un partenaire avec qui on s'entend bien. Parce que quand on s'entraîne, on n'est pas en combat. Et du coup, la personne qui est la meilleure pour te rectifier dans ta position, c'est finalement ton partenaire qui est au plus près pour ressentir ce qui est bien et ce qui va pas bien. Donc si la communication elle est pas ouf et si t'es pas à l'aise avec le partenaire, et bah tu feras pas du bon judo par exemple pour les katas. On est deux à s'entraîner et à présenter cet enchaînement de techniques. Et ça se ressent tout de suite si on a une dispute avant, si on est fatigué, voilà, ou si on a un petit froid et ou si ça va très bien, et ben on fait pas le même kata, il a pas la même force ou la même amplitude au niveau des chutes par exemple, voilà. Pour les katas, je me suis entraînée donc avec deux amies, une qui est vraiment ma meilleure amie. Pour le premier dan, on l'a vraiment travaillé ensemble. Et le deuxième dan, c'était plus avec une copine que je vois un peu moins en ce moment, mais bon, elle m'a beaucoup apporté et du coup, je pense toujours à elle finalement parce que je suis très fière d'avoir eu ce kata avec elle. Donc voilà. Fin hiver printemps l'année dernière, on faisait entraînement pratiquement tous les soirs. Mais après, c'était voulu, quoi. Genre, on avait discuté, justement, la communication avec ma partenaire à ce moment-là était très importante parce que ça servait à rien d'aller s'entraîner un soir si l'autre était trop fatigué ou si l'autre n'avait pas la tête à ça parce qu'il y avait un examen le lendemain. Donc,
Le pire conseil qu'on t'ait donné, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un conseil ou plutôt une blague, mais je suis une nature très calme. Et du coup, en compétition, avant de partir en compétition, mon prof me disait « Sois méchante, fais les yeux méchantes pour intimider le partenaire et prendre le dessus. » Ça n'a jamais marché.
Avant un combat, tu te sens comment ? C'est quoi un peu tes rituels pour te préparer si tu en as ?
Alors, je ne fais pas beaucoup de compétition, donc je n'ai pas forcément de rituels, mais c'est surtout que j'essaie de gérer mon stress parce que je me fais un peu bouffer par ça et c'est de me dire que je dois gagner, quoi. Genre, c'est
l'objectif.
Ça. Ouais.
En tête.
Ouais.
Est-ce que tu as rencontré des échecs ou des obstacles pendant ta pratique sportive du judo qui t'ont rendu service et qui t'ont fait grandir ?
Oui. Par exemple, pour les katas, pour avoir son premier dan, nos katas, on les a passés trois fois avec ma copine. Bon, la première fois, on savait qu'on ne l'aurait pas, on allait là pour se déstresser et voir comment se passait une présentation. La deuxième fois, nous a fait très mal. En plus, on s'est fait un peu rabrouer par le jury, donc ça a été plus compliqué. Et du coup, la troisième fois, on est arrivé plus forte. Et pour le deuxième dan, on l'a loupé aussi. je l'ai présenté deux fois aussi. Et pareil, la première fois a vraiment servi à débloquer tout pour que le deuxième soit parfait.
Ouais, c'était nécessaire quelque part,
ouais.
Tu penses ?
Ouais, ouais.
Est-ce que tu te vois un jour arrêter le judo ?
Non.
Jamais.
Il faudrait que je puisse plus marcher ou que je puisse plus bouger pour ne plus en faire.
Même là, dans la vie pro, actuellement, t'en es à quel rythme d'entraînement ?
Ouais, 1h30 mercredi et 2h le samedi. J'aime pas les louper, donc je m'organise à chaque fois pour aller. Et ça, voilà, c'est vraiment important.
Voilà. Ça fait partie de ton hygiène de vie, quoi.
Oui.
Eh bien, merci beaucoup, Laure.
Merci
c'est
à vous.
C'est très chouette d'être venue nous parler du judo.
Merci à vous. Merci à vous pour ce podcast, parce que c'est cool de venir parler de ce genre de sport au féminin en plus. Donc voilà, merci.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Après Laure, Océane a interviewé Atina Marmora. La fondatrice de Revel te parle de pourquoi elle a monté cette association, de leur partenariat avec Adidas et la judoka Audrey Tchemeo, championne du monde et quadruple championne d'Europe, qui va venir à la rencontre des jeunes filles soutenues par Revel.
Bonjour Atina.
Bonjour.
Tu es la fondatrice et la directrice de l'association Revel. Je suis ravie que tu sois là avec moi pour cet épisode de Conquérante. Merci beaucoup d'être là.
Mais merci pour l'invitation.
Pour commencer, est-ce que tu peux donc te présenter et présenter un peu l'association, quand est-ce qu'elle a été créée et pourquoi elle a été créée ?
Alors l'association Revel est née en décembre 2013 et c'est parti d'un constat que j'ai fait sur le terrain. Donc avant de créer Revel, j'étais formatrice et j'intervenais dans les lycées, plutôt en banlieue parisienne. citoyenne sur la question du projet professionnel, de l'insertion professionnelle des jeunes. Et j'animais des ateliers. Et dans le cadre de ces ateliers, je posais tout souvent la question aux jeunes filles, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et j'avais systématiquement le droit au top 3 des métiers, c'est-à-dire puéricultrice, secrétaire et assistante de direction. Et face à ces réponses qui étaient tout le temps les mêmes, je me suis questionnée, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que ces filles choisissent toujours ces métiers-là ? Pourquoi ceux-là, en fait ? Et en questionnant les jeunes filles, les professeurs, les associations de quartier, j'ai compris que les filles faisaient des choix de métiers qui étaient tout simplement présents dans leur environnement social et familial. Et qu'en gros, ces jeunes filles ne pouvaient pas rêver à être, je sais pas moi, architecte, si autour d'elles, il n'y avait pas de femmes architectes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, avant de parler d'égalité des chances, il fallait parler de questions d'égalité des rêves et que si les jeunes filles n'étaient pas égales face aux rêves, elles ne pouvaient pas forcément avoir les mêmes égalités en termes de d'insertion professionnelle et de développement de leur potentiel. À ça s'ajoute aussi un constat que les jeunes filles manquent de confiance en elles. Par exemple, elles prenaient beaucoup moins la parole en classe que les garçons. Et souvent, elles me disaient qu'elles ne trouvaient pas de structure, ou en tout cas qu'elles n'avaient pas d'espace où elles pouvaient parler librement de leurs problèmes, de leurs rêves, de ce qu'elles avaient envie. Et je me suis dit, qu'est-ce qui existe en France sur la question de l'orientation professionnelle des jeunes filles ? Est-ce qu'on prend en compte la question du genre dans l'accompagnement au choix. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'associations qui faisaient de l'accompagnement à la scolarité, mais que cette question des filles n'était pas traitée, qu'on ne savait pas comment faire. Et je me suis dit, bingo, on va créer un programme pour des filles, entre filles, pour libérer la parole, créer la confiance, mettre à disposition de ces jeunes filles des rôles modèles pluriels, c'est-à-dire des parcours de réussite diverses, pour qu'elles puissent se dire qu'elles aussi, elles peuvent faire ces choix-là. Et puis aussi, surtout, les accompagner à acquérir une méthode pour construire un projet professionnel, à mieux se connaître, parce que la connaissance de soi, c'est à la base en fait de tout. Donc si je me connais, si je sais quelles sont mes forces, mes motivations, j'ai plus de chances de trouver un projet qui me convienne et dans lequel je vais vraiment me développer. Donc aujourd'hui, Révèle, c'est une association qui accompagne les jeunes filles dans le développement de leur potentiel. Et on les accompagne essentiellement sur trois choses. Donc, nos objectifs prioritaires, c'est la confiance en soi, l'ouverture des champs des possibles et la capacité à agir, à passer à l'action au service de son projet. Et pour ça, on propose des programmes d'accompagnement qui durent un an et qui débutent par une expérience un peu transformatrice qui s'appelle le parcours Révèle ton potentiel, où pendant 5 jours, 30 jeunes filles vont se retrouver et vivre une expérience humaine où elles vont se découvrir, découvrir les autres, où elles vont prendre confiance en elles, rencontrer des femmes au parcours inspirant, découvrir le monde de l'entreprise et surtout sortir de là avec une force, une motivation, une ambition beaucoup plus forte. Et puis surtout, elles vont se dire qu'elles ont de la valeur, 2, qu'elles en valent la peine, 3, qu'elles ont leur place dans la société, et 4, que rien n'est impossible et qu'il n'y a pas de limite, en fait, tant qu'on se donne les moyens et qu'on prend sa chance, en fait.
Qu'est-ce qui fait, du coup, selon toi, que ces jeunes filles, comme tu dis, qui ont 16-17 ans, justement, ont si peu confiance et ont tant de mal à un peu s'approprier l'espace, à prendre la parole devant des garçons, à s'imaginer dans les boulots de leurs rêves, etc.?
Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a parfois il y a la question de l'environnement social, familial dans lequel elles sont. C'est-à-dire que s'il y a des personnes autour d'elles qui ont plus tendance à appuyer sur leurs défauts, à les sous-estimer, des personnes qui ne leur donnent pas de responsabilité, forcément ça va avoir un impact sur leur confiance. Et aussi elles n'ont pas l'opportunité de rencontrer des femmes qui ont elles aussi eu des difficultés, mais qui ont réussi, des exemples de réussite dans lesquels elles vont pouvoir s'identifier. On s'est tous construits sur des modèles, sur des rôles modèles, que ce soit des rôles modèles femmes ou hommes, on se construit tous comme ça. Et ces jeunes filles, elles ont juste besoin d'avoir des modèles qui leur ressemblent, donc du coup qui sont atteignable entre guillemets, parce que c'est souvent on a des jeunes femmes qui sont issues de milieux modestes dans nos rôles modèles, qui sont parfois des quartiers, qui ont des parents issus de l'immigration, etc. Et donc du coup, si elles voient que ces femmes-là réussissent, alors elles se disent à leur tour, ok, moi aussi je peux y arriver, moi aussi j'ai ma place autant qu'elles. Ce qui fait que les jeunes filles, c'est un sujet qui me touche, c'est parce que j'ai pu voir autour de moi des filles qui ne bénéficiaient pas du même environnement, je dirais que le mien, avec des parents qui ont fait des études, qui poussent, qui ouvrent le champ des possibles. Je pense que ça, c'est primordial. Il y a une injustice quand même. Enfin, je veux dire, la question du déterminisme social, elle est plus à prouver en France. On sait bien que quand on grandit dans une famille à Paris, avec des parents qui sont cadres, on n'a pas les mêmes chances de réussite que quand on grandit à la Courneuve, avec des parents qui n'ont pas fait d'études, qui ne maîtrisent pas forcément le système français. Forcément, on va pas avoir les mêmes chances. Enfin, je veux dire, c'est plus à prouver. Maintenant, quand il s'agit de jeunes filles, faut rajouter à ça la question de la confiance. On travaille beaucoup chez Revel sur la question du choix, en fait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que chaque jeune fille, quel que soit son milieu social, puisse être en capacité de faire des choix en connaissance de cause. Et on ne peut pas dire que ces jeunes filles font des choix en connaissance de cause parce qu'elles ne connaissent pas tout le champ des possibles. Et à partir de là, il y a une injustice que moi, je combats. Et moi, ce que je veux, c'est que ces jeunes filles choisissent la femme qu'elles ont envie d'être. Et pour choisir, il faut connaître, il faut comprendre, il faut permettre à ces jeunes filles de les ouvrir. Alors, la pratique du sport est une ouverture, mais la culture en est une autre, les voyages en sont une autre. On essaye d'ouvrir au maximum pour permettre de faire des choix et aussi pour permettre à ces jeunes filles de se connaître. C'est les expériences qui fait qu'on sait qui on est, qui fait qu'on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Si on n'a pas la chance de vivre ces expériences, bah du coup on n'a pas la chance de se connaître. Et quand on n'a pas la chance de se connaître, bah au final on peut faire des choix et passer à côté de sa vie.
L'association est soutenue depuis peu par la judoka Audrey Tchuméo et il y a bientôt un programme Révèle par Adidas qui va sortir. Est-ce que tu peux un petit peu en parler?
Donc le programme Révèle par Adidas est né d'une rencontre donc avec Adidas qui nous a présenté leur envie de travailler sur la question de la pratique du sport chez les filles, chez les jeunes filles, et le fait que la confiance en soi était un des leviers en fait qui allait permettre cette pratique. Et du coup on s'est dit bah tiens, on a un langage commun, la question de la confiance. Et c'est vrai que chez Révèle, même dans notre pédagogie, le mouvement a une grande place. C'est-à-dire que pour être bien dans sa tête, bien dans son cœur, il faut être bien dans son corps aussi. Et donc on met en mouvement les jeunes filles et on s'est dit que ce partenariat avait du sens. On voit des jeunes filles, par exemple, pour te donner un exemple concret, des jeunes filles qui arrivent le premier jour, qui ont une posture complètement fermée, qui ne bougent pas dans les exercices, qui sont renfermées sur elles-mêmes. Et on voit au fur et à mesure qu'elles prennent la confiance et du coup qu'elles se mettent en mouvement et qu'elles prennent de plus en plus de place, même dans l'espace. Et pour nous, c'était primordial d'accompagner aussi Adidas dans ce message, qui est que la pratique sportive aide à prendre confiance. C'est aussi ouvrir le champ des possibles, puisque les jeunes filles vont avoir l'opportunité de passer des journées chez Adidas, de rencontrer des femmes, des rôles modèles de chez Adidas, de découvrir le secteur du sport, qui est aussi un secteur où il y a des métiers, où il y a des carrières, et qu'elles sont aussi accessibles à nos jeunes filles, et l'opportunité de rencontrer des rôles modèles sportifs dont Audrey et j'espère qu'on aura très rapidement l'occasion d'organiser cette rencontre, parce que c'est une femme qui a beaucoup travaillé sa confiance en elle pour arriver là où elle en est aujourd'hui avec ses titres de championne d'Europe. Et l'idée, c'est aussi, à travers ces rôles modèles, de susciter l'envie chez les jeunes filles de s'investir dans un sport, mais surtout aussi de se dire ok, il faut oser, il faut y aller, il faut travailler, il faut persévérer. Tout ça, enfin, les notions de persévérance et de travail sont des valeurs en fait qui sont importantes et qu'on essaye de véhiculer chez nos jeunes filles. Donc ce programme avec Adidas va permettre de renforcer notre message auprès de ces jeunes filles et de les pousser un petit peu aussi à se bouger, parce qu'on le voit, il y a parfois c'est des questions de priorité. Elles pensent que le sport n'est pas une priorité et on le sait, la pratique du sport permet de travailler plein d'autres choses, la confiance certes, le travail en équipe, la notion de persévérance, comme je disais tout à l'heure, la valeur travail, engagement, et on avait tout à gagner avec Adidas dans ce partenariat.
Je voulais revenir sur, on parlait des rôles modèles tout à l'heure. C'est vrai que quand j'interviewe des jeunes filles comme ça pour les épisodes de Conquérante et que je demande justement, est-ce que tu avais un modèle féminin, que ce soit une athlète ou pas forcément dans ton sport, souvent, elles me disent, pas vraiment. À quel point ça impacte justement les jeunes filles de pas avoir de représentation, de réussite qui leur ressemble, comme tu disais tout à l'heure?
Eh ben, ça les impacte dans les chiffres qu'on voit. À partir de 14 ans, elles arrêtent de faire du sport. Mais si demain, il y a plus de femmes du milieu sportif qui sont valorisées, si on les voit à la télé, si on les entend à la radio, si on en parle dans les lycées, peut-être que ces jeunes filles, elles vont se dire, moi aussi, je peux. C'est toujours la même chose. C'est comment est-ce que tu arrives à faire que les filles s'identifient à ces femmes. Et pour qu'elles s'identifient, il faut qu'elles les connaissent. Là, c'est pareil, il y a la Coupe du Monde de foot féminin. Ça peut faire une grosse différence chez les jeunes filles et susciter la pratique du foot chez les filles. Moi, je me souviens très bien d'une de nos jeunes filles, par exemple, à l'époque, qui aimait le foot, mais qui jouait au foot en cachette. Et elle joue en cachette, et quand je lui demande « Mais pourquoi tu joues en cachette ?» Elle me dit « Ouais, parce que moi, j'ai peur qu'on se moque de moi. » Mais à partir du moment où, à la télé, on voit des réussites des femmes footballeuses qui sont mises en avant, elle aura plus honte, cette jeune fille. Elle sera fière de jouer au foot et c'est hyper important.
Est-ce qu'avant l'idée du coup de ce programme, il y avait des discussions comme ça avec les jeunes filles à propos du sport, à propos du corps? Est-ce que c'est la pratique, la réappropriation du corps, etc., ça faisait vraiment partie de...
Oui. Ouais, c'est une vraie question et on le voit, on l'observe en fait chez les jeunes filles. Celles, par exemple, on fait des exercices où les jeunes filles sont en mouvement, on les amène à danser, ce genre de choses, et on voit que certaines jeunes filles ont du mal avec leur corps, se trouvent pas belles, se trouvent grosses, il y a des vraies problématiques qu'on connaît toutes les adolescentes. On est quand même à l'âge où son corps se transforme, on passe de jeune fille à femme, c'est des choses qui sont pas forcément évidentes. Et les filles alors déjà, elles sont entre filles, donc elles ont plus confiance et c'est plus facile pour nous de les mettre en mouvement. Et du coup, la pratique du sport n'est pas... c'est pas évident pour elles, en fait. C'est-à-dire, c'est pas évident dans le sens où... elles pensent que c'est pas important. Et il faut les aider, en fait, dans cette prise de conscience que le sport, c'est pas que faire du sport. C'est tout un bien-être, en fait, qui vient avec la pratique du sport. Et plus elles le font jeunes, plus elles vont se sentir mieux avec elles-mêmes, mieux dans leur corps, et du coup, mieux avec les autres. C'est tout un cercle vertueux, quoi.
Dire après tout ça, je n'ai pas les mots tellement je suis impressionnée par tout le travail mis en œuvre par Atina et son équipe. Merci à elle et à Laure d'avoir participé à ce podcast et surtout merci à Océane d'avoir réalisé ces interviews avec brio. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Conquérante. D'ici là, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour nous soutenir. Bien évidemment, tu peux aussi partager cet épisode à ton entourage s'il t'a plu et sur les réseaux sociaux en taguant Mademoiselle pour que je vois ce que tu en as pensé. À vite pour découvrir tes prochaines héroïnes.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.